Bonjour et bienvenue dans le Bulletin Azur, épisode 1. Nous sommes le 20 octobre 2011 et je suis Benjamin Guinemertière et tu es
Ben Pierre Cousy, et
très bien.
puis on a un troisième larron
Thomas
virtuellement qui
Comté.
est Thomas Comté,
Voilà.
mais qu'on retrouvera dans les prochains épisodes.
D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bulletin Azur, Pierre?
Donc le principe c'est qu'on va prendre l'actualité aujourd'hui de la plateforme Azure et
Ouais.
essayer tous les mois de faire un petit condensé de cette actualité, donc sur
D'accord.
20 minutes, avec à la fois des nouveautés qui viennent des US, donc on verra un petit peu ce qui sort côté groupe produit, nouveaux
Ouais.
samples, etc. Et puis également des nouveautés franco-françaises, donc quels sont les événements, quelles sont les publications, enfin, ce que chacun fait au quotidien là-dessus.
D'accord.
On
Comment est-ce qu'on
a
se trouve
plusieurs façons de
ça?
retrouver tout ça. Donc sur Twitter, on va relayer tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Et puis on
D'accord.
est contactable, donc Benjamin, Pierre et Thomas.
Oui.
N'hésitez pas à nous tomber dessus via Twitter et puis on
Oui.
prendra en compte vos
De toute
délicieuses
façon, on ne les lit
remarques.
pas, donc vous pouvez nous envoyer, allez-y, n'hésitez pas. Non, on les lira. Donc voilà, et puis l'adresse de référence, AKMS, comme AKA, comme also known as, .ms/lebulletinazur, tout en minuscules.
Eh bien, allons-y.
Donc de quoi on s'inspire?
Alors, donc Cloud Cover Show, pour les anglophones parmi vous, c'est la version américaine, donc qui est faite par Steve Marks et Wei Wagner depuis maintenant un an et demi à peu près,
Ouais.
avec des épisodes passionnants. Il y a toujours des thématiques, c'est très creusé. Donc si vous avez plus de temps que 20 minutes, n'hésitez pas, faites un tour chez eux, c'est absolument passionnant.
Si vous comprenez l'anglais aussi.
Et on a choisi en gros, sur un rythme mensuel, de condenser un petit peu ce que eux racontent sur deux épisodes et puis de rajouter un petit peu les éléments qui arrivent et qui sont intéressants chez nous.
Oui, voilà.
Donc là, pour ce premier épisode, je ne sais pas si tu as les différents exemples, mais on a
Oui.
prévu, si ma mémoire est bonne, les épisodes 59 et 60.
C'est ça, donc le Cloud Cover Show, c'est sur Channel 9. Hein, on va dans Browse, Shows, et puis là, on trouve Cloud Cover Show. Donc ils en sont à l'épisode 61. Et donc, il y en a un paquet. Et les deux derniers épisodes dont on s'inspire ici sont l'épisode 59 et l'épisode 60. Donc, les actualités. Nouvelles locales.
Ouais, donc qu'est-ce qu'on a ces temps-ci aujourd'hui sur la partie franco-française? Donc première chose, on a les Microsoft Days qui sont en train de se balader de ville en ville jusqu'à novembre.
Oui.
Donc n'hésitez pas à venir, il y a un paquet de sessions qui sont soit entièrement consacrées à Azure, soit qui prennent Azure comme un des exemples ou un des éléments.
Exactement.
Donc Windows Azure pour les développeurs qui est donné tantôt par Benjamin, tantôt par moi. Et puis JavaScript pour les développeurs .NET qui parle un petit peu de Node et d'Azure qui est animé par Thomas. Et puis Stéphanie qui également montre deux ou trois choses autour d'Azure.
Voilà, dans le cadre d'une application qu'elle construit de A à Z, donc elle montre aussi comment est-ce qu'on migre certaines parties dans Azure. Et puis également, j'anime développer un site web fonctionnel élastique sur Azure.
Ben voilà.
Très bien.
Alors ensuite,
Comment?
si vous voulez découvrir tout ça, donc on n'a pas le temps de vous expliquer en détail ce qu'est Azure, donc on suppose que vous connaissez un peu. Donc sinon, vous mettez en pause, vous prenez 2 minutes pour aller regarder le premier lien et vous aurez une overview de 2 minutes. Vous pouvez prendre 1 heure pour le deuxième lien, ou bien vous pouvez prendre 1 mois pour le troisième lien qui va vous donner accès à la plateforme de test gratuitement et donc vous pourrez
Voilà.
jouer avec.
Très bien. Donc, les actus Windows Azure. Je vais essayer de retrouver mon navigateur. Le voilà. Donc, le
Alors,
15 septembre 2011 est sorti le SDK 1.5, donc Software Development Kit de Windows Azure. C'est avec pas mal de nouveautés dedans, mais il y en a une en particulier sur laquelle on voudrait insister, qui est le fait de pouvoir valider en fait un package Azure, c'est-à-dire qu'avant de déployer, si vous avez des dépendances de DLL dans votre code et que ces DLL ne se trouvent pas sur la plateforme Azure, dans ce cas-là, avant de déployer, il va vous dire attention, le package n'est pas correct puisqu'il ne contient pas toutes les dépendances. Donc le fameux DLL qu'on met à copy always à true, il va vous prévenir si vous avez un problème avec ça.
ouais, donc c'est le syndrome classique, hein. Je crée mon package, je le déploie, et puis la bécane tourne, elle reboot, elle reboot, elle reboot, et elle ne se déploie jamais. Et en fait, c'est juste qu'il manque une dépendance. Donc
Exactement.
maintenant, on est prévenu avant de déployer.
Ce qui fait gagner
Dernier
du
truc
temps.
quand même là-dessus, il y a également l'arrivée de MVC3 en standard.
Ah oui, pardon.
Et donc ça, c'est fondamentalement agréable,
Oui.
parce que dans MVC3, on a également tous les scaffolders qui débarquent. plein de techniques de développement rapide en mode web qui vont se mettre dans Azure sans qu'on ait rien à faire, pas de DLL magique à trimballer, rien de particulier.
Plus la syntaxe Riser de MVC3 qui est bien agréable. Et également le fait qu'on puisse commencer par un projet MVC3 et rajouter ensuite le projet de déploiement Azure, qui est aussi une nouveauté du SDK 1.5, bien agréable.
Ouais, puis vous verrez aussi la partie outillage dans Visual Studio a légèrement évolué. Donc on a parlé de la validation, il y a deux ou trois endroits où ça a été refait, l'émulateur a été retouché, donc plein de petites choses. Et pour les gens qui automatisent le packaging d'applications, donc on est passé du SDK 1.4 au SDK 1.5, je suis sûr que vous avez tous un chemin à changer quelque part dans vos fichiers PowerShell ou Commandlet. Voilà pour celui-là.
Thomas nous a fait un blog post sur des fonctionnalités un peu cachées du SDK 1.5. Pierre, tu peux nous en parler cet exemple.
En deux mots, quand on veut déployer des éléments supplémentaires dans la VM, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est qu'on mettait des tâches de démarrage, et donc dans ces startup tasks, on allait ensuite rapatrier, copier, lancer, etc., etc.
Et on se retrouve avec comme ça de startup tasks.
Ouais, et puis c'est assez pénible à débugger. Donc voilà. Ce qui a été mis en place dans le SDK 1.5, on n'en a pas beaucoup parlé parce que je pense qu'on l'exploitera beaucoup plus à l'avenir, mais en tout cas, c'est déjà présent. C'est la possibilité de jouer avec des contenus que vous allez pouvoir installer là où vous voulez, des variables d'environnement que vous allez pouvoir définir. Ça, c'était un des gros pépins qu'on voyait en permanence. Quand est-ce que j'ai défini? Quand est-ce qu'elles sont visibles? Qui peut les voir? Etc., etc. Et donc maintenant, vous avez les bons endroits pour faire ça.
En particulier, les variables d'environnement, ça permet de dire je veux exécuter une startup task, sauf quand je suis dans l'émulateur. Il y a un exemple comme ça qui est assez pratique.
Voilà.
Parce que quand on installe tout un truc qui est déjà sur la machine locale,
oui,
ça
ou alors
être pratique.
PHP, par exemple, il y a pas mal de SDK ou de framework PHP qui interrogent des variables d'environnement pour savoir où aller trouver leurs outils.
OK. Ensuite, géoréplication. Donc ça, c'est bien pratique. Enfin, c'est bien pratique ça, que en cas de plantage d'un data center complet. Donc, c'est comme la sécurité passive. On est content quand on n'a pas à s'en servir. L'idée, c'est que tout ce qui est stocké dans le stockage Windows Azure, hein, c'est-à-dire les blobs, les tables non relationnelles et les queues, est répliqué sur l'autre data center de la même région. C'est-à-dire que si on déploie des choses, par exemple, dans le data center de l'Europe de l'Ouest, ce sera répliqué sur l'Europe du Nord. Et donc, en cas de désastre, les équipes Windows Azure pourront récupérer ces informations-là.
Deux petits warnings là-dessus, parce que j'ai eu plein de questions de la part de clients.
Ouais.
Donc la première, on ne quitte pas la zone géographique.
Oui.
Donc spécifiquement en termes de législation, les données restent en Europe. Mmh. Et la deuxième, bien qu'il n'y ait pas d'interface pour faire ça dans les portails, vous pouvez demander au support de désactiver cette fonction et comme ça vous avez la garantie que vos données restent sur un seul data center, celui que vous avez choisi.
Oui. Le service bus 2011, donc qui correspond à la CTP qu'on avait en mai, et à noter là-dedans, en particulier la notion de queue et de topic, qui permet d'implémenter en fait un mécanisme de souscription abonnement, donc dans le cadre du service bus qu'on a dans les nuages. Donc, ce sont des améliorations, enfin des nouvelles fonctionnalités qui sont bien pratiques.
Ouais, on en parlera en détail dans un prochain numéro.
Le training kit.
Donc là, c'est tout bête. Hein. Tout ce qu'on vient de vous raconter et plus encore, on met à jour périodiquement le training kit qui est une gigantesque accumulation de ressources, vidéos, présentations, labs, démos, etc. etc. Donc aujourd'hui, on arrive
à... Exemple de code, enfin tout.
Voilà, donc j'arrive pas à lire, mais c'est 285 mégas, si ma mémoire est bonne, de données diverses et variées. C'est épouvantablement gros. C'est très utile. Voilà, donc vous pouvez tout découvrir là-dedans. Et c'est une des meilleures sources aujourd'hui d'exemples parce que c'est constamment remis à jour.
Ouais. Une session très intéressante de la conférence Build qui s'est tenue en septembre, qui est sur le débugage et le monitoring des applications Windows Azure.
Bon, ouais. Donc là-dessus, on a de plus en plus maintenant de situations où on constate que c'est Azure, et ben il reste étage d'administration, ce qui est évident, mais dans la tête des gens, plateforme égale pas d'admin, c'est pas vrai. Il y a du monitoring, du suivi, il faut comprendre ce qui se passe sur la plateforme. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de contenu qui arrive là-dessus. Donc là, on a la vidéo qui sort de Build et qui est très intéressante. Prenez le temps de l'écouter, elle est un peu trapue, elle est en anglais, mais elle est bourrée d'informations. Il y a également autre chose, je pense que tu l'as juste après.
Exact.
Voilà, on a ici tout un paquet de petits commandes LED PowerShell qui vont vous permettre, donc vous voyez, si tu peux zoomer un peu sur la liste, que vous en puissiez les voir un petit peu. Voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui dans ce numéro d'en parler en détail, puisqu'on parlera plus de data aujourd'hui. Mais pareil, dans un prochain numéro, on fera un détour plus appuyé sur ces nouveautés-là.
Il y en a d'autres. Donc pas mal de nouvelles commandes. Un blog de Martin qui nous permet de... ou de Martin, je ne sais pas. Enfin, donc qui constate que souvent on veut déployer dans le cloud à partir de son gestionnaire de sources. Et il dit, mais de toute façon, le gestionnaire de sources, c'est fait pour gérer les sources, c'est pas forcément fait pour déployer. En revanche, on a un mécanisme qui permet de déployer, qui sont les packages NuGet. Et donc, lui montre dans un exemple de code comment est-ce qu'on pourrait déployer à partir d'un package NuGet directement dans Azure. Donc, c'est un exemple de code assez intéressant, apparemment, pour pouvoir faire ça.
Voilà. Il est fort probable qu'on l'invitera à Paris dans les mois qui viennent, que ce soit pour parler de ça ou d'autres éléments autour d'Azure. Donc, on vous tiendra au courant là-dessus.
Un application blog. Donc, vous connaissez sans doute les entreprises library ou pas. Mais en tout cas, c'est le groupe Pattern Practices qui crée tout un framework applicatif en .NET en général qui contient tout un ensemble de blocs applicatifs. Et le dernier en cours de développement, donc qui est actuellement en bêta, c'est celui pour faire l'auto-scaling de Windows Azure. Donc, il y a cette vidéo qui est sur Channel 9 dans laquelle ils font une démonstration de ça et qui est vraiment intéressante. Entre autres, il montre qu'on a deux types de règles. Les règles vraiment de contraintes, c'est-à-dire je ne veux pas moins de 2 VM sur une ferme parce que pour la disponibilité. J'en veux pas plus que 10 parce qu'après, je vais dépasser mon budget, par exemple. Et puis dans le temps, ça peut évoluer. Par exemple, dans la journée, je veux pas plus que 10, mais la nuit, je veux pas plus que 5. Et après, il y a des règles réactives qui disent si, par exemple, il y a une queue qui commence à avoir trop de messages qui s'accumulent, je crée 20% de plus dans ma ferme. En termes d'instance, ou alors une instance de plus, ou de moins d'ailleurs, puisqu'il faut aussi pouvoir descendre en charge pour pouvoir avoir une vraie élasticité. Donc il y a tout un tas de choses bien pensées. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est vraiment intéressante.
Voilà, et puis on s'était toujours refusé à le faire dans le produit en lui-même, parce que prendre les décisions de montée ou de baisse de capacité, c'est quelque chose qui est extrêmement métier. Mais là, on donne un framework avec énormément de souplesse pour que vous puissiez le tailler à vos besoins sans réinventer la roue.
Exactement. Un blog post que je viens d'écrire, en fait, qui montre juste une première vue sur une des nouvelles fonctionnalités du portail Azure, qui existe depuis une semaine à peu près, qui est le Azure Data Sync. On va y revenir tout à l'heure, mais en gros, ça montre avec des copies d'écran comment est-ce que ça se présente. On reviendra dessus après.
Ouais, donc on a choisi de finir en vous parlant un peu plus en détail de la partie data. Et donc, on a vu beaucoup de choses arriver, alors un petit peu lors de Build, et puis beaucoup lors du sommet PASS qui a eu lieu là, juste la semaine dernière, donc qui est dédié normalement à SQL Server, mais qui a pas mal parlé de SQL Azure. Et donc, il y a deux ou trois petites choses qu'on veut vous raconter là-dessus. Le premier, c'est tout bête, la taille max d'une instance SQL Azure passe de 50 à 150 gigas.
C'est trois fois plus ?
Trois fois plus, ça concerne peu d'applications, mais si vous voulez être rassuré quant à vos capacités de croissance, on fait ça pour vous.
Voilà.
Quelque chose qui existait depuis très longtemps, mais qui était un peu souterrain et qui n'était pas forcément facile d'accès, c'était deux CTP qui sont maintenant réhabillés, remis en avant dans le portail Windows Azure
avant,
principal.
Avant, il fallait se faire inviter, tout ça, c'était assez compliqué.
Oui, et puis c'était sur un portail secondaire qui n'avait pas les mêmes URL, voilà, c'était un peu galère. Et donc, tout ce qui est data sync, et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, et tout ce qui est reporting. Vous allez commencer à retrouver directement dans Azure des fonctionnalités qu'on avait à d'autres endroits. Data Sync, ça vient du Sync Framework, et reporting, ça vient de reporting. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
DAC,
donc ça, c'est la capacité de traiter les données, structure, définition, enfin l'intégralité du contenu d'un instance SQL Server ou SQL Azure comme une entité. et d'être capable de backuper, de restaurer, de retravailler sur cette entité. Donc c'est beaucoup plus qu'un simple backup restore, on embarque beaucoup plus de logique et on est beaucoup plus fin sur ce qu'on est capable d'appliquer ou de ne pas appliquer à tel ou tel endroit.
Il y a deux façons de le voir. On peut le voir soit sous la forme d'un zip, à la limite, parce que c'en est un, le DACPAC.
Ouais.
Mais après, quand on regarde vraiment dans le détail de comment est-ce que le zip, enfin, de ce que contient le zip, en gros, ça permet effectivement d'avoir le code du développeur ainsi que le contenu qui se retrouve dans une instance de production et puis ça, c'est capable de gérer les différences, etc. Ce sont des nouveautés qui arrivent aussi avec SQL Server 2012. Donc tout ça est lié. Donc on ne verra pas tout ça dans le détail, mais on verra quelques éléments.
Voilà. Donc un petit warning, ça apparaît dans le portail. Pour vous en servir sur votre machine côté entreprise ou développement, il vous faut SQL 2008 R2. Oui. Donc, ou Express, on s'en fiche, hein, ce n'est pas la peine d'acheter la version. Simplement, si vous avez téléchargé à la va-vite n'importe quel SQL Express, il y a de bonnes chances que vous soyez tombé sur le lien le plus...
Tu parles du SQL Server Management Studio.
Non, je parle de SQL Server en lui-même. La fonctionnalité de réimport n'est disponible...
Ah, pour réimporter dans...
Exactement. N'est disponible qu'à partir de R2. Oui. Donc, vérifiez que votre SQL Express dans votre machine de développement, c'est bien une version R2. Vous faites select /version et vous voyez ce qui ressort. Si c'est 10.0, c'est du 2008. Si c'est 10.5, c'est du 2008 R2 et vous aurez les fonctionnalités DAC à l'intérieur.
D'accord. Hadoop, pour le big data.
Oui, donc on commence à travailler avec des acteurs historiques de ce monde-là dans le but d'avoir sur Azure une infrastructure Hadoop qui soit industrialisée, simple de prise en main. Et donc vous verrez arriver, donc il y a eu les premières annonces ici qui étaient première preuve de concept, première démo, et on est en train d'arriver très vite à des trucs beaucoup plus industrialisés. Donc plus d'infos dans les 2 mois qui viennent à peu près.
Oui, c'est ça. Donc, qu'on fasse un petit point sur d'abord le DAC. Mais alors là, on va le voir juste sous sa forme la plus simple, c'est-à-dire sous la forme d'un zip, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'on a une base et on veut l'exporter de façon à en faire un backup.
Tu vas le lancer, on va commenter rapidement.
Oui,
donc, en deux mots, hein, c'est une demande très régulière. Comment est-ce que je fais pour backuper mes données? Et aujourd'hui, on sait tout simplement créer un snapshot d'une base. Et donc, vous faites créer une database as copy of une autre database. Et dans ce cas-là, dans SQL Azure, vous avez un clone de la première base. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut un fichier qui contienne les données. Et donc, on passe par DAC.
Voilà.
Et ici, il suffit d'aller dans les bases de données.
Donc, on va dans les bases de données.
Notre ami Azure, voilà. T'en as plein?
Ouais. C'est pour être en Asie, un peu partout. Donc là, par exemple, j'ai Azure DB Europe comme base.
Voilà.
Et je vais pouvoir l'exporter. Donc je vais en faire un fichier DACPAC et là, il me demande plein de choses. Donc d'abord, le compte pour me connecter à la base de données.
Alors oui, donc là-dessus, les gens galèrent en permanence. Donc le compte, c'est votre identifiant de SQL Azure,
avec
le mot de passe associé. L'URL du nouveau blob, ça demande un peu d'explication.
Voilà.
Vous allez devoir créer dans vos blob storage un conteneur, un répertoire, qui va accueillir tous vos fichiers, tous vos backups, on va les appeler comme ça simplement. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, Benjamin a créé un truc qu'il appelle bulletin Azure.
Voilà, donc c'est un compte de stockage.
Voilà.
Donc on l'a aperçu dans le portail tout à l'heure.
Et dans ce compte, on va créer un conteneur.
Voilà, donc là, on crée un nouveau conteneur. Donc là, sauvegarde SQL, par exemple.
Très bien.
On va le mettre pas public, tant qu'à faire.
Oui, c'est du backup, c'est pour nous.
Voilà. Et donc, on a ce sauvegarde SQL qui est ici. Et là, on va devoir créer un fichier, un blob, qui va se retrouver à cet endroit-là.
Donc, si tu bascules maintenant sur le portail.
Si je vais sur le portail ici.
L'URL du nouveau blob, c'est l'URL de votre storage Azure.
Donc, bulletin Azure
01.blog.core.windows.net
Windows.net
/, le conteneur
sauvegarde SQL.
Et là, vous inventez le nom de votre choix pour le fichier.
Vérifie juste que j'ai bien mis sauvegarde SQL, c'est bon. / le nom de mon choix, .dacpack par exemple.
Très bien. Et ensuite?
Et ensuite, la clé d'accès qui correspond à bulletin Azure 01.
Oui, alors dans KeyType, vous pouvez varier un petit peu les plaisirs et avoir également des URL temporaires, mais pour l'instant, on va le faire directement comme ça.
Voilà, oui, si on veut effectivement avoir, ça c'est si on veut avoir les shared access keys.
Exactement.
Et donc là, je fais terminer. Donc là, il me dit qu'il a été, il a lancé cette commande et je dois retrouver dans le stockage.
Bon, il faudra le temps qu'il arrive, oui. Voilà.
Voilà. Et donc là, j'ai mon fichier DACPAC et je peux à nouveau le réimporter dans une autre base ou dans la même, enfin dans la même peut-être pas, mais en tout cas dans une nouvelle base.
Ouais.
Voilà.
C'est tout là-dessus. Il faut juste comprendre qu'on a besoin d'un storage et donc il faut initialement créer le conteneur dans lequel on va mettre tout ça. Sinon, on est un petit peu coincé devant cette interface. On ne sait pas quoi mettre dedans.
Voilà.
On avait d'autres choses à regarder.
Le data sync rapidement.
Ouais.
Alors, je ne vais pas remontrer tout le détail de la façon dont ça se fait. En revanche, sur ce qu'on peut faire et comment est-ce que ça se présente, grosso modo. Donc là, par exemple, j'ai une base qui est en Europe. J'ai une autre base qui est en Asie. Donc des bases SQL Azure, hein. Une troisième base qui est aux États-Unis et une base qui est locale ici. Hop. Enfin, c'est une des bases qui est là-dedans. et donc, et ben, on va pouvoir synchroniser toutes ces bases-là.
Voilà, on fait de la synchro multisource.
Exactement. Avec des résolutions de conflits à la hache. Mais enfin, qu'on peut configurer en tout cas. Et donc là-dedans, je vais retrouver. Où est-ce qu'il est?
Donc pendant que Benjamin
Voilà. Donc dans mon data sync de West Europe, j'ai un groupe qui s'appelle le Sample Sync Group, dans lequel j'ai effectivement tous ces éléments-là.
Alors, est-ce que tu peux montrer qu'il est tout joli ce schéma?
Voilà. Donc en fait, comment est-ce qu'on lit ça? Donc on a ce qui est dans le cloud et ce qui est à demeure. On-premises et à demeure. Donc dans le nuage, on a nos trois bases, Europe, Amérique et Asie. J'ai pris la base européenne comme la base correspondant au hub, donc la base principale en fait. Et ensuite, on a les réplications avec la base qui est à demeure. Donc cette base à demeure, en fait, elle est liée à SQL Azure via un agent qui s'installe sur le poste où il y a SQL Server ou sur un poste qui a accès à ce SQL Server on-premise. Et donc après, il y a une synchronisation à chaque fois avec le hub. Donc dans les résolutions de conflits, on peut dire, par exemple, est-ce que c'est le hub qui gagne ou est-ce que c'est celui qui se synchronise qui gagne?
Alors,
dans les cas de conflit.
Deux petits détails là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on installe un agent? Parce qu'on repose sur le Sync Framework. Et le Sync Framework, c'est du code et il faut bien exécuter ce code. Donc ça, c'est ce qui explique le besoin de mettre quelque chose lorsqu'on est sur site.
Voilà.
Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que la synchronisation, c'est pas magique. On a besoin de métadonnées. On a besoin de minimiser les flux et de savoir quelle politique utiliser pour résoudre les conflits. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette ces métadonnées quelque part. Et donc le choix qui a été fait par les équipes sur cette fonctionnalité, c'est d'utiliser les bases puisqu'elles sont là pour ça.
Et donc on trouve toutes ces tables-là, par exemple, dans une des bases, ça doit être la base, je ne sais plus, américaine ou asiatique, qui a ces trois tables-là utiles. Et il y a tout un tas de tables qui sont liées à la synchronisation elle-même, qui contiennent un peu des métadonnées de tracking. Quoi.
Voilà. Donc soyez pas horrifiés de les voir apparaître, mais effectivement, ça change un petit peu le contenu de vos bases puisqu'on ajoute toutes ces tables de tracking.
Autre point important, c'est de la synchronisation et pas de la réplication. Donc ça se fait avec un certain intervalle. Là, j'ai mis par exemple 2 heures et on peut descendre jusqu'à 5 minutes.
Bon.
Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce dont on voulait parler sur SQL Azure.
Oui.
Et même de ce dont on voulait parler aujourd'hui.
Donc, si vous avez d'autres questions là-dessus, vous nous attrapez encore une fois par Twitter ou autre. Benjamin va vous remettre ça.
Voilà.
S'il y a des sujets que vous voulez voir traités, vous vous manifestez. S'il y a des sujets que vous ne voulez pas voir, vous vous manifestez également. Et si vous avez fait un sample rigolo ou bien que vous êtes en train de travailler et que vous galérez sur quelque chose, manifestez-vous. On est très gourmand de raconter vos petites histoires à vous en plus des nôtres.
Très bien, et bien un grand merci et à bientôt.
Au mois prochain.